Bonsoir à tous. Abdourahmane Dia avec vous pour ce nouveau numéro d'À votre avis. Et aujourd'hui, nous allons parler de la transparence dans les industries extractives en Afrique. Les présidents du Sénégal et de Sierra Leone ont déclaré hier qu'ils voulaient que les noms des propriétaires réels dans les industries extractives soient révélés. Ils estiment, donc lors d'une conférence qui s'est tenue hier à Dakar, que c'était le meilleur moyen pour juguler la corruption et l'évasion fiscale. Alors, la question qu'on pose, comment jugez-vous la question des contrats miniers dans vos pays respectifs? Le processus d'attribution vous paraît-il transparent? Je rappelle le numéro sur lequel vous pouvez appeler en direct, c'est le 001-202-205-2633. Vous pouvez continuer également à réagir sur notre page Facebook. J'ai avec moi en studio mon collègue Bagassi Koura, le chef du service Bambara. Bagassi, bonsoir.
Oui, bonsoir Abdulaziz, bonsoir à tous.
Abdourahmane, encore
Abdourahmane.
Une fois.
c'est le même Abdou.
Absolument, absolument. Alors, Bagassi, quelques chiffres quand même. Hein. L'Afrique concentre à elle seule 30% des réserves minérales mondiales, 7,5% des réserves de pétrole et 7,5% des réserves de gaz naturel. Et les populations sont appauvries. Et beaucoup pensent que c'est peut-être lié à tout ce système d'attribution de contrats qui est un peu opaque et que les populations n'arrivent pas à en bénéficier.
Oui, oui, et on a raison de penser ainsi. Hein. Vous savez, depuis qu'on était tout petit dans les écoles, on nous a toujours chanté hein, « L'Afrique regorge des ressources naturelles, l'Afrique regorge de minerais ». Et jusqu'à présent, la question n'a pas été réglée. On a tous sur nos sols, sous nos sols aussi. Et vous avez toutes sortes d'industries qui exploitent que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale ou même en Afrique australe. Du coup, la question est restée des décennies après. On n'a pas bougé, on n'a pas évolué et c'est vraiment opaque. C'est difficile de savoir. C'est vrai que souvent, on voit des investisseurs étrangers, mais dans la plupart des cas, il faut le reconnaître, hein, ce n'est d'étrangers que de nom, parce que souvent, c'est des pouvoirs locaux ou des grands hommes d'affaires locaux qui essaient de trouver des partenaires internationaux pour un peu passer invisible dans certaines de ces affaires. Mmh. Et donc, cette idée hier qui a été émise, ça m'étonne que ça a pris tant de temps pour qu'on en parle.
Justement.
Et d'ailleurs, parce que c'est les présidents.
Justement, c'est
des présidents. Est-ce qu'ils en ont besoin de parler? Macky Sall, tout de suite, peut aller réunir tout le monde au Sénégal et en faire un débat national.
Exactement. Dans les réseaux sociaux, justement, la réaction, c'était que c'était plutôt un vœu pieux.
Oui.
Et que, voilà, lui-même, il est un peu accusé de cette même opacité dans l'attribution de contrats pétroliers. Bon, la présidence se défend en disant que c'était pas la même chose. Mais vous avez parfaitement raison. Et nous allons peut-être voir ce qu'en pensent les auditeurs. Nous avons Ben, l'homme le peuple de Kinshasa. Ben.
Bonsoir, Revue Afrique, et bonsoir aussi à notre invité.
Merci.
Oui, bonsoir.
Quel est votre point de vue sur cette question? Je sais que la RDC aussi regorge de ressources naturelles, et il y a aussi cette polémique, j'imagine, sur l'attribution des contrats.
Ah, franchement, voilà où vous l'attribuez comme polémique. Mm-hmm. Je crois que ça existe chez nous, et chez nous, c'est beaucoup plus pur que peut-être ailleurs. Ici, chez nous, auparavant, dès qu'ils comptaient beaucoup plus, c'était de chefs de cœur qui arrivaient à attribuer cette histoire de minerais à des investisseurs. Mais aujourd'hui, ça devient juste l'État avec des investisseurs qui arrivent à se contraindre, ils arrivent à se convenir et ils viennent seulement ravir de terre comme ça. C'est pour ça que vous arrivez à suivre le chemin, on arrive à dire l'air de ces gorges, beaucoup plus des intensivités de minerais. Mais le pays est toujours pauvre. Pourquoi? Parce que chez nous, nous avons la capacité et la possibilité de faire revivre le diamant, de venir de Brest par rapport à notre authenticité. C'est-à-dire, si nous arrivons à nous référer à nos aïeux, je crois sûr que nos minéraux vont avoir de valeur.
Mais si on et surtout profiter aux populations, n'est-ce pas? Parce qu'à l'arrivée, c'est oui, plus ça et il faut que cela profite aux populations.
Oui, ça va profiter population, mais juste quand on arrive à exploiter, par exemple, dans le parc agro-industriel de Bukangalonzo, que vous suivez dans les grands Bandundu, on est en train d'exploiter du minerai. Mais le minerai ne profite pas les grands Bandundu, ne profite même pas les RDC. Mais là, où ça passe, on n'arrive pas à comprendre. C'est pour ça que vous voyez, il y a toujours de renouvellement des contrats à contrat. Nous étions avec des Sud-Africains, nous étions avec des Américains, aujourd'hui nous sommes avec des Israéliens. Pourquoi ? Parce qu'ils n'arrivent pas à respecter réellement le chef de terre. Chez nous, le chef de terre, c'est le chef coutumier peut-être ailleurs. Les chefs coutumiers ont le pouvoir de dire, par exemple, là où il n'y a pas de minerai, ça puisse venir et on va exploiter du minerai. Nous avons compris, par exemple, du niveau Kapanga, là vous avez écouté au Kassai, vous avez écouté à l'est du pays, juste dans le Grand Kivu. Ça existe comme ça. Mais où se remettons, si nous, on n'arrive pas à se référer à notre authenticité, à nos aïeux, tout n'ira pas.
D'accord. Merci.
Nous avons nos coutumes.
Merci beaucoup,
et
Ben.
Nous devons respecter nos coutumes, tout n'ira.
Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Ben. Justement, Bagassi, il y a une question d'actualité qui est liée un peu à aux populations qui veulent justement savoir ce qui se passe et qui veulent profiter des retombées de ces minerais. Hier, les victimes de survivants d'un massacre de villageois en Guinée, et cela s'est passé en 2012, ces victimes ont porté plainte contre le gouvernement guinéen et une société minière qu'ils accusent de complicité, puis en fait, estimant que le recrutement des jeunes de ces localités s'est fait de façon opaque et que donc, voilà, ça revient à la question de comment profiter de ces ressources.
Oui, parce que le débat était mal posé. Une fois qu'on voit les ressources, on fonce sur ces ressources-là, on commence à exploiter sans vraiment poser les bases, sans vraiment discuter des règles de fonctionnement. Qu'est-ce qu'on gagne à travers tout cela? Parce qu'après, on a vu, nous ne sommes pas les premiers. Il y a plein de pays durant des siècles qui sont passés par là, qui étaient des pays avec plein de ressources. Et ces ressources sont parties. Donc un jour, l'Afrique n'aura pas de ressources. Qu'est-ce qu'on aura fait de notre environnement? Qu'est-ce qu'on aura tiré de ces ressources-là? Quel genre d'emploi on aura trouvé pour ces jeunes au fil de ces années? Et toutes ces questions ne sont pas posées. Et donc, du coup, dès qu'on découvre, je sais que dans certains pays, même sous des écoles, des enfants ont été délogés de leur classe, parce que des gens avaient déjà commencé à creuser. Ces ressources ne pourrissent pas. Pourquoi est-ce qu'on est si pressé? Parce qu'une minorité souvent de gens qui sont aux affaires, qui sont au pouvoir, veulent que ça soit exploité ici et maintenant, pendant que je suis encore au pouvoir. Quand je vais partir, c'est les autres qui vont en profiter. Donc, il faut que pendant que moi, je suis au pouvoir, on exploite au maximum le pétrole, on exploite au maximum l'or. Ça ne pourrit pas. Pourquoi est-ce qu'un pays qui n'a pas les cadres qu'il faut, qui n'a pas les moyens qu'il faut, ne peut pas prendre du temps, on va le former les gens au Canada, on va le former les gens où il faut, et quand ils seront là, quand on sera prêt, on va ouvrir nos mines. Maintenant, on ouvre des mines et on est obligé d'aller importer des cadres qui sont payés extrêmement cher, qui viennent travailler dans des expats, et ils définissent des conditions qu'on ne maîtrise pas.
D'accord, merci beaucoup Bagassi. Alors nous avons Hassan Boulalé depuis Djibouti. Hassan, les présidents sénégalais et sierra-léonais ont évoqué cette notion. En fait, c'est un peu une reconnaissance qu'il y a des prétendants dans le secteur.
Oui, c'est un élément très important, il faut le féliciter. Et ce qui est très important, c'est que les ressources naturelles que nous avons, surtout les ressources minières que nous avons en Afrique, les Africains n'en profitent pas, surtout les citoyens ordinaires africains n'en profitent pas. Souvent, les chefs d'État africains signent des contrats avec des industriels et signent des contrats avec des pays comme la Chine actuellement, qui est de plus en plus, si on peut dire, envahissent le continent africain. Mais les citoyens africains n'en profitent pas, même ceux qui sont très proches des miniers, fait souvent proches de lieux de travail, donc ils ne profitent pas de façon effective, de façon visible. Il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de sentiers, il n'y a pas même de l'avenir pour ces gens-là. Donc le chômage est tellement important dans ces zones où on travaille et on retire ou on extrait de l'or et de cuivre et un ensemble de ressources. Donc l'Afrique, elle est souvent victime de ces problèmes dus souvent à la corruption. Parce que ces gens-là ont de complices au sein des autorités et ils travaillent avec donc même le président, les chefs d'État, si on peut dire, prennent des commissions et il est actionnaire.
Peut-être qu'on ait des preuves pour ça, en tout cas. Mais oui, dans une certaine mesure.
Général, c'est comme ça. En général, c'est comme ça.
On ne peut pas tout mettre sur le dos des. Oui, Hassan, on ne peut pas tout mettre sur le dos justement des compagnies étrangères. Peut-être qu'il faut que nos élites aussi jouent leur partition.
Oui, mais est-ce qu'il a, d'abord, ces gens-là, ils sont arrivés pourquoi au pouvoir? C'est la question qui est très importante. Ces gens-là veulent profiter seulement. Donc, ils n'ont pas dans le sens du patriotisme, le sens du respect de l'autre frère africain. Pour eux, c'est de garder le pouvoir. Et donc, souvent, on leur inculque que si vous, par exemple, vous opposez à nos industriels, donc demain, vous ne serez pas. On va vous remplacer, on va vous envahir. Il y a les rébellions qui sont ici. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, l'individu, il a tellement peur qu'il n'arrive pas à maîtriser la situation.
Merci beaucoup,
donc,
Hassan. Yacouba Bagassi, justement, dans l'attribution des contrats, en tout cas dans la configuration de ces contrats, souvent ce qu'on voit, c'est que les États africains gagnent très peu, des fois 10%, des fois même moins. Et en fait, comment ces États peuvent faire pour justement avoir le dessus dans ces négociations?
Parce qu'en fait, tout ça est conçu pas pour le bénéfice de l'État. Il faut être là et s'assurer que vous avez une grande part dans ce contrat-là. Qu'est-ce qui se passe? Et ce que votre pays va gagner, c'est pas votre problème. Après, on viendra parler des contrats qui profitent pas à votre pays, mais vous aurez eu. C'est un peu ça qui est déplorable. Des gens qui vont aller dans ces négociations et qui vont défendre vraiment leur pays et qui vont signer des contrats qui bénéficient leur pays. Mais malheureusement, c'est pas le cas partout et vraiment, on sort toujours perdant.
Le Burkina, par exemple, qui est un pays producteur d'or.
D'or et qui exploite partout. L'État n'arrive pas à maîtriser. De temps en temps, on apprend qu'il y a eu des fraudeurs qui ont tenté de faire sortir des tonnes et des tonnes d'or. Parce que l'État n'a pas les experts qu'il faut pour contrôler ses propres ressources. Le Burkina Faso, qui découvre de l'or un peu partout, n'a pas de propre cadre pour aller dans les mines et discuter correctement avec ses Canadiens, avec ses experts, ses miniers, qui, eux, ont de l'expérience, eux ont été éduqués. Donc, quand un cadre du Trésor va dans une mine, il n'est pas outillé pour discuter, il n'est pas outillé pour savoir combien il doit taxer. Qu'est-ce qu'on fait? On lui déclare juste... Écoutez, monsieur, on a exploité 2 tonnes cette année. Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'avez aucun moyen de le savoir. Et c'est dommage que les États continuent de foncer comme ça, tête baissée, dans cette situation. Et c'est nous tous qui perdons.
D'accord. On retourne à Kinshasa avec Alphonse Mbouaké. Alphonse, bonsoir.
Bonsoir, Abdou.
Oui, alors, donc, vous évoquez également le problème des opérateurs miniers expatriés qui discutent directement avec le gouvernement.
Oui, donc, Macky Sall et notre président...
Madabio.
Pardon?
Le président Madabio de Sierra Leone, oui.
Voilà, Joseph Kabila avait réuni des opérateurs expatriés, des exploitants miniers expatriés, pour pouvoir discuter sur les équilibres dans les contrats, parce que comme vous avez dit qu'il y a toujours un écart dans les négociations, un écart en faveur de ces expatriés. C'est pourquoi Monsieur le Président voulait requalifier ces contrats de façon que ce ne soit pas opaque, mais que ça c'est qu'il y ait la transparence et que l'arrêt de Congo puisse arrive à gagner dans ces marchés, dans ces contrats. Les opérateurs ont été identifiés et les Congo a posé ces termes, mais cela n'a pas été, n'a pas rencontré l'assentiment des exploitants et cela a provoqué un tollé de leur part, mais le cas Congo s'est imposé. Vous savez, dans la signature des contrats, il faut que nos États africains s'imposent. Il faut qu'ils disent leur prix et disent leur part.
D'accord.
Parce que ça nous appartient. Nous sommes les propriétaires.
Je vous pose une question, Alphonse. Alphonse, est-ce qu'en RDC, par exemple, les exploitants locaux, s'il y en a, est-ce qu'on, Est-ce qu'on les connaît? Est-ce qu'ils se dévoilent publiquement? Parce qu'ici, il est question également de prénoms des gens qu'on ne connaît pas et qui se cachent derrière ces compagnies. Et justement, ces deux présidents veulent savoir qui ils sont, même s'ils, en principe... Oui, allez-y.
C'est la même... Oui, on va continuer.
Allez-y.
Oui, c'est la même difficulté qu'on éprouve partout en Afrique. On ne sait pas identifier tous les locaux surtout là. Vous savez, même, j'ai suivi un reportage dans France 24 où on a vu une ministre du chef de l'État qu'on appelle ici Banamoura utilise des trésors locaux pour qu'ils vendent par kilo au chef de l'État et lui à s'en servir. Donc,
d'accord.
Ça dépend aussi de non seulement il ne faut pas seulement accuser les expatriés, mais aussi nos dirigeants.
D'accord, merci. Merci Alphonse. Oui, merci beaucoup. On a bien compris. On va aller à Abidjan retrouver Steve Boko. Steve, bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur le journaliste.
Alors, en Côte d'Ivoire, quel est le problème dans votre pays?
Ici, en Côte d'Ivoire, j'ai vu que le président Ouattara même a pris une décision un peu similaire aux deux présidents qui en ont pris tout récemment. Mm-hmm. Parce que nous constatons beaucoup de l'opérateur clandestin en Côte d'Ivoire ici. Donc le président a pris une décision de pouvoir avoir un peu de taux sur... C'est-à-dire, si l'opérateur, les experts viennent exploiter l'or ici, le taux doit être un peu équitable afin que les autochtones du village et même les autorités du pays. Vous voyez, donc je pense que cela nous a beaucoup regretté un peu. Mais en ce qui concerne le sujet du jour, je pense que nos États, ils essaient de mettre, c'est-à-dire ils exploitent nos mines, c'est-à-dire nos ressources minières, mais le vrai problème, ils cherchent les machines à exploiter ces ressources ici en Afrique. Donc vous voyez, donc je pense qu'il doit falloir qu'il essaie de se contenter sur la manière de la transformation que de chercher à exploiter et glaner les biens publics seulement à leur guise. Vous voyez, parce que ici même partout, malgré qu'ils ont dit cela, mais partout dans les agglomérations du pays, on constate que les gens exploitent que l'or du pays. Vous voyez, et demain, on aura encore l'or dans ce pays? Non. Donc je pense qu'il doit essayer, même si on signe des contrats, qu'il respecte pour ne pas aussi dépasser la bonhomie.
D'accord, merci. Donc, merci Steve. Alors, Bagassi, Steve, notre auditeur d'Abidjan, pose un débat assez intéressant. Il faut exploiter, mais il faut transformer sur place.
Oui, et la question est revenue depuis des décennies. Pourquoi est-ce que on ne transforme pas? Je crois qu'il y a un pays en Afrique australe, j'ai pas trop le nom en tête, qui a commencé déjà à tailler ses propres diamants. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire. Et c'est pourquoi, moi, je le dis, les ressources naturelles, ça ne pourrit pas. On pourrait prendre le temps de se préparer pour bien tirer profit. C'est pas la peine de se précipiter et prendre son diamant, aller faire tailler en verre ou quelque part ailleurs dans le monde où d'autres personnes en profitent pendant que nous, on se tape toute la pollution et tous les problèmes environnementaux. Donc, ce serait bien que... des États apprennent à exploiter.
Il faut l'expertise pour ça.
Voilà, il faut l'expertise. On peut se préparer. Moi, je ne sais pas pourquoi on est si pressé. Les pays scandinaviens qui ont découvert du pétrole, qui ont découvert leurs ressources, qu'est-ce que ces pays se sont dit? Faisons comme si on n'avait rien. Vivons comme si on n'a pas découvert de pétrole chez nous. Pendant ce temps, on peut bien organiser, on peut créer de bons textes, on peut préparer nos enfants et on va l'exploiter. Un peu chaque année. Il y a un taux qu'il ne faut pas dépasser. Mais nous, on est en train de créer... Dans 10 ans, il n'y aura plus d'or au Burkina. On sera devenu quoi? Ouais. On n'aura que des zones polluées et avec toutes les conséquences
avec toutes les conséquences
qui
cela va... Ouais. D'accord, on va... Je crois qu'on a Diarra Kanyoumé depuis le Mali. Diarra, bonsoir.
Oui, bonsoir Abdarrahman, bonsoir à toutes les rédactions de VO Afrique. Je vous appelle toujours dans mon village natal à Sonikeni.
D'accord. Bonsoir à tous les auditeurs de Sonikeni. Vous avez votre voisin du Burkina qui...
Ika Kenewa.
Qui vous parlez en Bambara.
Ouais, Ika Kenewa.
D'accord. Alors, Diarra.
Ok, à la grande, oui.
Dites-moi, Le Mali est aussi un pays riche en or.
Oui.
Et quel est un peu le débat sur cette question de la transparence dans l'attribution des contrats?
Oui, effectivement, à mon avis, je pense que vraiment il y a beaucoup de sociétés minières au Mali, mais il faut imaginer vraiment nos dirigeants africains avec les dirigeants qu'ils ont à côté. Vraiment, ils ne font pas leur boulot normalement. Sinon, à mon avis, je pense que la population, le moment qu'ils sont en train de pleurer d'aujourd'hui, que vraiment il y a crise au moins c'est économique, ou bien il n'y a pas l'argent des caisses de l'État, je vois que c'est zéro, parce que les dirigeants, ils ont à cause de corruption, ils sont en train de détourner nos fonds publics. Et sinon, il faut imaginer que vraiment il y a l'argent au Mali, parce qu'il y a beaucoup de l'exploitation ici. Par exemple, il y a au moins vers côté Kaye, il y en a là-bas, il y a beaucoup même, mais je ne peux pas citer. Sinon, à mon avis, je pense que vraiment, dans mon village ici, il y a une exploitation de carrière ici. Mmh. Donc, voilà, il y a contrat avec nous, avec le Razel. Les sociétés s'appellent Razel. Donc, il y a contrat avec nous, les villages, avec les sociétés Razel.
Est-ce donc, qu'il y a des jeunes qui travaillent dans cette société, des jeunes de la localité?
Oui, effectivement, il y a beaucoup de jeunes de mon village qui travaillent dans cette société. Donc, d'accord, il y a des contrats aussi qui est signé. Mm-hmm. Donc, je pense que vraiment si tous les endroits font comme ça, je pense que vraiment la chômage aussi, ça va finir. Et puis, les jeunes aussi vont trouver au moins beaucoup de places dans les sociétés minières. Sinon, oui, à mon avis, merci. Je pense que vraiment, il y a plusieurs jeunes diplômés sans emploi.
Oui. Oui, donc, merci beaucoup,
voilà,
Diarra. Voilà. Bagassi, vous vouliez dire quelque chose par rapport à ça?
Oui, en fait, l'autre solution qui pourrait être trouvée, c'est aussi d'avoir des lois qui sont respectées en matière de délits d'apparence. Je veux dire, si les gens savent que les fortunes qu'elles sont en train d'acquérir illégalement, qu'elles seront difficiles à dépenser à l'intérieur du pays. Parce
absolument.
Que si vous avez des domaines et des domaines, eh bien la police va venir vous demander, monsieur, qu'est-ce que vous faites dans votre vie pour avoir tout ça à Bamako, pour avoir tout ça à Ouagadougou. Mmh. Et du coup, ça peut freiner que quelqu'un ne vienne pas avoir 200, 300 hectares de champs.
Sans pouvoir justifier.
Mmh. Donc, s'il y a ce genre de loi et que vous êtes dans une mine, vous commencez à penser, mais ça ne va pas me servir parce que tout cet argent, on va me prendre.
C'est une très bonne suggestion. Nous avons peut-être notre dernier auditeur, Pablo, depuis la Guinée. Pablo, vous êtes là? Oui? Oui, Pablo, rapidement. J'ai l'impression que j'avais du monde avec vous.
Non, j'étais dans un lieu de service. Là.
D'accord, là. Allez-y rapidement.
Ouais, j'ai écouté l'intervention de mon collègue là.
Oui.
Par rapport à la situation de la Guinée, vous le savez très bien, si on prend la Guinée dans son aspect géographique, on dit que la Guinée est un scandale géologique.
Ouais, on le dit.
Mais malgré que la Guinée, c'est un pays scandale géologique, géographiquement, mais on voit que la Guinée reste l'un des pays du tiers-monde aussi des plus pauvres du continent africain.
Donc pour vous, les populations, on ne tire pas profit des ressources de votre pays, c'est ce que vous voulez dire?
Oui.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup Pablo. Nous allons peut-être terminer Bagassi.
Oui.
On voit un peu les auditeurs, c'est la déception par rapport aux ressources que ces pays ont, mais que les populations n'arrivent pas
à... Oui, c'est la déception et la question a toujours été posée. Génération après génération, nous avons promis la démocratie, il va y avoir des alternances, une nouvelle génération au pouvoir, mais les mêmes pratiques sont là et du coup, les populations sont désemparées. Qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce qu'on fait? C'est une question qui reste ouverte. Vous pouvez continuer à discuter sur notre page Facebook. Merci d'avoir suivi. Merci à tous qui ont participé à la réalisation. Michel Joseph, Firmin Koyaveda et Nachwal Kale. Dans un instant, notre point sur l'actualité avec Ekia Badou. Merci à vous, Bagassi. Au revoir.
Merci.